Le cinéma cubain a mis du temps avant de se faire connaître en dehors des frontières de l'île. Contraints de se plier aux préceptes de la Révolution, les cinéastes n'avaient souvent d'autre choix que de se soumettre ou s'exiler. Tomás Guterres Alea choisit une voie médiane, supporter de la Révolution tout en pointant ses dérives, avec un sens critique suffisamment acceptable pour les tenants du régime. À l'occasion de la sortie en Blu-ray DVD d'un coffret regroupant trois films emblématiques du cinéaste, La mort d'un bureaucrate, La Ultima Cena et Fraises et chocolat, édité par Tamasa, découvrons le parcours de ce réalisateur méconnu à travers les soubresauts sociétaux et politiques de son pays.
Une histoire de cinéma. Un podcast revu et corrigé. Co-produit par Tsugi Radio et présenté par Antoine Julien.
Ya llegaron de la sierra, porque los mandó Fidel, libertaron. Nuestra tierra y nos dieron la paz al volver. Por las calles aclamado, su ideal, su fe que más pudo. Todos gritan, han triunfado, que viva Fidel, vivan los barbudos.
Le 8 janvier 1959 est jour d'effervescence à Cuba. Fidel Castro entre dans la Havane sous les acclamations de la foule, mettant fin à la dictature de Fulgencio Batista. Celui que l'on surnomme le leader Maximo peut savourer son triomphe. Fils d'un riche planteur cubain d'origine espagnole, il fait des études de droit et se marie avec la fille d'un avocat proche de Batista, l'homme fort du pays qui le dirige d'une main de fer depuis son putsch de 1952, soutenu par les États-Unis. Cet impérialisme américain, Fidel Castro le voue aux gémonies. Il forme un mouvement révolutionnaire d'étudiants et d'ouvriers et avec une centaine de partisans attaque le 26 juillet 1953 la caserne de Moncada à Santiago de Cuba. C'est un fiasco sanglant. Castro est condamné à 15 ans de prison. Il en profite pour rédiger l'Histoire Maquitra, une plaidoirie passionnée défendant son action et expliquant ses thèses politiques. Il est libéré dès 1954 à la faveur d'une amnistie. Il se réfugie alors avec son frère Raoul au Mexique où il fonde le mouvement du 26 juillet et rencontre Ernesto Guevara, un jeune médecin argentin que l'on surnomme le Che, qui se déclare marxiste-léniniste et confesse sa proximité avec l'Union soviétique. Le 2 décembre 1956, Fidel Castro revient clandestinement à Cuba à bord d'un petit bateau de fortune, le Granma, avec 81 compagnons au total. Une semaine plus tard, traqués par l'armée cubaine, ils ne sont plus que 12, comme les apôtres. Ils prennent par la suite le maquis et sont rejoints par de jeunes dissidents sur les hauteurs du massif montagneux de la Sierra Maestra. Des centaines de partisans viennent grossir les rangs castristes dans la montagne. En mai 1958, les troupes de Batista sont tenues en échec dans la Sierra Maestra et finissent par battre en retraite. Plus rien ne peut arrêter la progression de l'armée rebelle. C'est le début d'une longue marche triomphale. Les insurgés attaquent simultanément plusieurs points clés du sud, du centre et de l'ouest de l'île, avant de faire cap sur la Havane pour faire tomber définitivement Batista. Lorsque Fidel Castro proclama le triomphe de la Révolution en janvier 1959, plusieurs colombes l'entourèrent. L'une d'elles se posa sur son épaule. Beaucoup y ont vu un signe surnaturel. Dans un pays où christianisme et culte africain se mêlent étroitement, les Cubains pensaient que Fidel était protégé par Obatala, la plus puissante des divinités orishas. Le mythe était en marche. Dans le documentaire de Daniel Lecomte, L'enfance d'un chef, on voit comment Castro emporte la foule et affirme sa volonté d'un régime démocratique.
Escucha. Escucha a los combatientes revolucionarios y escuchan los soldados del ejército cuyo destino está en nuestras manos.
Même les colombes seront de la fête, actionnées par un colombophile. Une image de paix qui fera forte impression sur le petit peuple de la Havane, à qui Castro jure la main sur le cœur qu'il a la fibre démocratique. Plus tard, il se montrera aussi rassurant quand on l'interrogera sur l'avenir du M26.
Will be organized by their leaders as a political party because it is the only way.
As a political party.
Yes, of course. And it is the only way in a democracy for
Cette épopée révolutionnaire, les artistes intellectuels cubains l'ont grandement accompagnée et soutenue, notamment les cinéastes, dont Tomás Gutiérrez Alea. Tomás Gutiérrez Alea est né le 11 décembre 1928 dans une famille aisée de La Havane. Il commence des études de droit à l'université de la capitale et obtient son doctorat en 1951. Dès 1947, il commence à tourner des courts-métrages humoristiques en 8 mm qui sont remarqués par le Parti Socialista Popular et lui permet d'obtenir son premier contrat en 1948. En 1951, il part suivre pendant 2 ans les cours de cinéma du Centro Experimentale de Rome, où il se découvre une passion pour le néoréalisme. En 1955, de retour à Cuba, il co-réalise avec Julio García Espinosa un moyen-métrage documentaire, El Megano, tourné en 16 mm, sur la vie des charbonniers des marécages de Zapata. Le film, qui dénonce la maltraitance subie par les charbonniers et leurs terribles conditions de vie, est confisqué par la police et censuré. Dans les premiers mois de la révolution castriste, il organise avec son collègue Julio García Espinosa la section cinématographique de l'armée rebelle. García Espinosa a fortement influencé le jeune Alea avec son ouvrage « Pour un cinéma imparfait », devenu l'étendard théorique des réalisateurs cubains, qui accuse le cinéma parfait, incarné par Hollywood, d'être réactionnaire et envisage un avenir où la pratique artistique deviendrait accessible à tous, permettant d'en finir avec l'élitisme. Puis peu de temps après la victoire des révolutionnaires, Gutiérrez Alea participe à la création de l'ICAIC, l'Institut cubain de l'art et de l'industrie cinématographique, dirigé par Alfredo Guevara. L'ICAIC se tournait à l'origine vers les courts-métrages documentaires et pédagogiques, mais à la suite de la nationalisation des distributeurs américains en 1961 et le boycott d'Hollywood, intervient le blocus économique imposé par les États-Unis. L'ICAIC prend alors le contrôle total de la distribution et de l'exploitation, soit près de 600 salles et un marché de 83 millions de spectateurs. C'est dans ce nouvel environnement cinématographique que Gutiérrez Alea entreprend la réalisation de son premier long-métrage de fiction, Historias de la Revolución, en 1961. C'est à ce moment qu'éclata l'affaire PM. PM est un court-métrage de Saba Cabrera Infante et Orlando Jiménez Leal sur la vie nocturne dans la zone portuaire de La Havane. Filmé à la manière du free cinéma britannique, la nouvelle tendance du documentaire de l'époque qui cherchait de la spontanéité grâce à la caméra légère, au magnétophone Nagra et à la pellicule ultra-sensible permettant de se passer d'éclairage artificiel. Le film ne plut pas du tout au régime de Castro, alors en train d'empêcher la tentative d'invasion de Cuba par les États-Unis, prévue dans la baie des Cochons. Diffusé à la télévision, PM allait finalement être interdit à la distribution en salle. Cette interdiction provoqua un vif émoi dans l'intelligentsia cubaine. Voir des gens s'amuser et s'enivrer au moment où le soutien à la révolution devait être total n'était pas du goût de Fidel Castro qui, lors des journées de débat à la Bibliothèque nationale de La Havane en juin 1961, fit cette déclaration lapidaire devant les intellectuels cubains censés fixer les limites « Dans la révolution, tout, contre la révolution, rien ». Pour de nombreux intellectuels, le désenchantement succéda à l'enthousiasme et plusieurs d'entre eux décidèrent de quitter Cuba et de s'exiler. Ce n'est pas le cas de Tomás Guterres Alea, qui croit toujours fermement dans les vertus de la révolution et veut continuer à pouvoir filmer de l'intérieur, tout en développant une certaine distance critique. Ce qu'il va mettre en image dans La mort d'un bureaucrate en 1966. Le film raconte les mésaventures de Joaquin, qui va devoir entreprendre des démarches aussi absurdes que rocambolesques afin de récupérer le livret de travail de son oncle, malencontreusement laissé dans son cercueil, le livret en question devant permettre à sa tante de recevoir sa pension de réversion. Dès le générique d'ouverture, Tomás Guterres Alea cite ses références cinématographiques. Luis Buñuel, Stan Laurel, Oliver Hardy, Mark Bergman, Juan Carlos Tabio, Elia Kazan, Buster Keaton, Jean Vigo, Marilyn Monroe et à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont participé à l'industrie du cinéma des Frères Lumière à nos jours. Tourné en noir et blanc, avec un éclairage contrasté virtuose, le film, très savoureux, recèle de nombreuses influences, allant du burlesque à la Chaplin au film noir, en passant par les séquences oniriques à la Buñuel et au cinéma de Georges Méliès et Segundo de Chomón. Le film, inspiré des propres ennuis vécus par le cinéaste avec la bureaucratie, est une charge féroce, teintée d'ironie sur la rhétorique grandiloquente de la Révolution. Pourtant, malgré cet aspect critique, Guterres Alea accompagne une volonté de débureaucratisation amorcée par la Révolution elle-même. En effet, la campagne anti-bureaucratique officielle, orchestrée par le quotidien Gramna, se déroula quelques mois après la sortie du long-métrage, en mars 67. Dans un entretien accordé à la Revue Positif en juin de la même année, le cinéaste reconnaît bien volontiers la distance établie entre les nouveaux tracas vécus par le protagoniste et la réalité de la vie cubaine. « Je suis certain que la plupart des vrais bureaucrates ne se sentiront pas visés par le film. Au mieux, ils y découvriront le portrait du voisin, pas le leur bien sûr. » Un bureaucrate de ma connaissance est esclaffé durant toute la projection du film et m'a félicité. Peut-être jouait-il la comédie. Puis je me suis dit qu'il avait ri des gags du film et jamais avec le film, jamais avec moi. La mort d'un bureaucrate connut un grand succès à Cuba au moment de sa sortie, s'imposant comme le film le plus vu de l'année dans le pays.
Una palabra. Proletario. Eso era Francisco J. Pérez. Para sus amigos. Paco.
Es que...
Díselo.
Es que a mi esposo lo enterraron con él.
¿Cómo?
Sí, sí. No sabíamos nada. Nadie nos dijo nada.
Carne. Mi tío era obrero ejemplar, ¿comprende?
No será permitido verificar ninguna exhumación hasta tanto no hayan transcurrido 2 años después del enterramiento.
Tío.
Solicitar una orden de exhumación.
Vaya al 46.
¡No se tire! ¡No se tire! ¡Párese!
Lo único que quería era un puño para enterrar a mi tío.
Que vinieron unos inspectores de salud pública. Están investigando.
Au début des années 70, la situation sur l'île se tend radicalement et la population observe autant qu'elle subit le raidissement du régime castriste. C'est durant cette période que l'écrivain Héberto Padilla publia un recueil de poésie, hors-jeu, dans lequel il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas dans l'île, à savoir le tournant dictatorial du pouvoir. Cette critique virulente de la Révolution lui valut d'être accusé de produire des écrits subversifs et il fut emprisonné en 1971. Devant les membres de l'Union nationale des écrivains artistes de Cuba, il fut même contraint de faire une autocritique durant laquelle les agents de la sécurité lui ont fait lire un texte d'excuses publiques. Digne des pires heures du stalinisme, cette humiliante contrition fit enfin réagir les intellectuels étrangers qui refusaient jusqu'à présent de voir la réalité du régime. Tomás Guterres Alea, bien qu'il demeure de plus en plus critique, n'en reste pas moins fidèle au fondement de la Révolution et veut toujours y croire, comme il le confiera plus tard dans un entretien accordé au courrier de l'UNESCO en 1995. Selon moi, une société ne peut aller de l'avant que si elle prend conscience de ses erreurs et de ses insuffisances. La critique est une arme révolutionnaire par excellence. Cependant, parler de la société cubaine des années 70 était sans doute devenu trop risqué. C'est la raison pour laquelle Guterres Alea préféra évoquer le passé de l'île, et plus particulièrement l'époque coloniale. C'est le sujet de son film La Última Cena, sorti en 1977. L'argument du film a été élaboré à partir d'un paragraphe du livre El Ingenio de Moreno Fraginals, écrit vers la fin du XVIIIe siècle. Ce passage très bref est une anecdote du comte de Casa Bayona qui, dans un acte de profonde ferveur chrétienne, décida de s'humilier devant ses esclaves. Gutiérrez Aleas s'est beaucoup documenté sur la Cuba coloniale, une histoire qu'il estime avoir trop souvent été racontée du point de vue des dominants. Lui veut aller à l'encontre de cet angle trop réducteur, en mettant davantage en lumière ceux qui ont subi cette époque et sa violence. Au milieu du récit, il ose filmer une séquence de 50 minutes montrant le propriétaire d'une exploitation de canne à sucre souper avec ses esclaves.
Un día como hoy, Cristo se humilló ante los hombres. No tiene nada de grandioso que un amo se humille ante sus esclavos. Anda. Bebe. Beban. ¡Más vino!
La séquence est une évocation directe de la scène de Léonard de Vinci où Jésus réunit ses apôtres pour un dernier repas. Le cinéaste s'inspire surtout de la célèbre séquence du Viridiana de Louis Buñuel, dans laquelle des mendiants prennent la place des maîtres de la maison et organisent un banquet, transformant leur fête en orgie. Mais les esclaves de la Ultima Cena, eux, n'auront pas ce loisir, réduits à leur asservissement. Et quand ils voudront se révolter, les représailles du comte seront impitoyables. Film méconnu sur l'esclavage, tourné caméra à l'épaule, la Ultima Cena jette un regard cru sur cette période et devient par la suite un classique du cinéma cubain. Gutiérrez Aleas est désormais un cinéaste installé et de plus en plus convoité, ce qui ne l'empêche pas de subir certaines déconvenues. En 1974, il souhaite se rendre aux États-Unis pour recevoir le prix spécial de $2000 que lui a récemment décerné l'Association des critiques de films américains pour son film « Mémoire du sous-développement ». Mais les autorités américaines refusent de lui délivrer un visa. Un fonctionnaire du Trésor allant même jusqu'à mettre en garde le président de l'association des critiques, M. Hollis Alper, contre l'acceptation du prix au nom du réalisateur cubain. Selon le département du Trésor, un tel geste constituerait une violation de la loi américaine interdisant tout commerce avec l'ennemi. Mais ces déboires ne l'empêchent pas pour autant d'être célébré un peu partout dans le monde.
Voy yo aquí.
En 1979, Mexico puis New York organisent les premières rétrospectives de son œuvre, tandis qu'il est l'invité des festivals de Berlin et de Cannes et que le festival de San Francisco lui rend hommage. En 1983, il participe à la première assemblée mondiale des réalisateurs de cinéma organisée au Portugal et achève le long-métrage jusqu'à un certain point, qu'il présente en 1984 au Festival de Berlin et de San Francisco. Mais le cinéaste ne fait pas l'unanimité, notamment auprès des exilés cubains qui lui reprochent sa trop grande servilité vis-à-vis du régime castriste. En 1983, le directeur de la photographie Néstor Almendros, qui a fui Cuba il y a plus de 20 ans, réalise avec Orlando Jiménez Leal le documentaire « Mauvaise conduite » dans lequel ils réunissent les témoignages de plusieurs intellectuels et dénoncent la cruelle répression menée par le gouvernement cubain contre les homosexuels durant les années 60 et 70. Afin de répondre aux attaques d'Almendros, qui lui reproche son silence devant cette répression, Guterres Alea envisage alors l'adaptation du récit de Senel Paz, le loup, la forêt et l'homme, sur la relation d'amitié entre deux hommes, un homosexuel dissident pétri de culture et un jeune étudiant communiste qui est chargé de l'espionner. Atteint d'un cancer, le cinéaste fait appel à Juan Carlos Tabio pour le seconder à la réalisation de Fraises et chocolat. Le tournage se déroule durant ce qu'on a dénommé la période spéciale en temps de paix, soit l'effondrement économique de Cuba dû en grande partie à la chute du bloc soviétique survenu en 1991. Pour le rôle-titre, Guterres Alea choisit le jeune acteur Jorge Perugoria, qui dut relever le défi d'interpréter un intellectuel gay doublement discriminé, d'abord en raison de ses préférences sexuelles, mais aussi pour sa pensée critique envers l'orthodoxie révolutionnaire. Dans une interview présente dans le livret de l'édition Blu-ray de Fraises et chocolat, le comédien revient sur l'impact que put avoir le film dans la société cubaine. Nous étions conscients de réaliser un film nécessaire et c'était notre moteur. C'est à l'époque que je découvrais à quel point l'art pouvait entrer en contact avec le spectateur. Et par la suite, quand nous présentions le film en Europe, aux États-Unis, au Japon, les gens s'étonnaient que nous ayons pu le tourner à Cuba. Jusqu'alors, nous ne formions qu'un bloc, tel les Coréens, autant dire que nous représentions le pire degré du stalinisme. Le film cassa les schémas et prouva que Cuba était rempli de contradictions, de personnes qui pensaient différemment, qui pratiquaient différentes religions. Et même s'ils rencontraient des difficultés, ces gens existaient et composaient une société pleine de nuances.
Con permiso. Estaba en Copérnico tomándome un helado. Cuando viene un tipo y se me sienta a la mesa.
No pude resistir la tentación. Un maricón.
¿Y cómo tú sabías que era maricón?
Mira, había chocolate y pidió fresa.
¿David? Tienes que inventar algún pretexto y volver a su casa.
¿A su casa? Si ese tipo no va con mariconcho.
Oye, esto es una misión. ¿Tú crees que se puede confiar en un tipo que no le fiel ni a su propio sexo?
¿Sí? ¿Me aceptas un brindis con la bebida del enemigo? He tenido problemas con el sistema.
¿Qué tipo de problemas?
Figúrate, de todo tipo.
Bueno, yo creo que... que cada uno tiene derecho a hacer su vida como le dé la gana. Tal
vez lo presentí. La revolución necesita más militantes como tú. Que me quería.
A ti no te estará captando el maricón ese.
A mí no me capta nadie, ¿ok? A mí me capto yo.
Coño. Me estaré volviendo un hijo de puta. Tal vez lo presentí.
Signe d'ouverture à l'international, Fraises et chocolat est coproduit par l'Espagne à travers le média Télémadrid. Le film rencontre un grand succès critique et public et le réalisateur décroche même l'Ours d'argent au Festival de Berlin. Mais c'est surtout la nomination à l'Oscar du meilleur film étranger en 1995 qui ravit sans doute le plus Tomás Guterres Alea. Ce plaidoyer pour la tolérance séduit Hollywood qui reconnaît enfin le talent du cinéaste, bien que cette apothéose tardive rappelle également les ambiguïtés d'une longue carrière menée sous la bannière de Fidel Castro. De plus en plus malade, il est à nouveau assisté de Juan Carlos Tabio sur le tournage de Guantanamera, son ultime long-métrage, qui sort sur les écrans cubains en novembre 1995, quelques mois avant sa mort survenue le 17 avril 1996 à La Havane. Il avait 67 ans. C'était une histoire de cinéma, une émission revue et corrigée, le média consacré à l'actu des classiques du cinéma en partenariat avec Tsugi Radio. Retrouvez une histoire de cinéma sur toutes les plateformes de podcast et sur le site de Revue et Corrigée. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau chapitre.